Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio. Parlons Immo.
Parlons Immo, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme chaque dimanche, d'habitude avec Sylvain Lévy-Valency, qu'on embrasse, le fondateur de Radio Immo. On est aussi aujourd'hui avec Bérénice de Villefleuriot. Bonjour.
Bonjour, JM. Mais c'est vrai que Sylvain est un peu souffrant, on l'embrasse.
Oui, on l'embrasse très fort. Grégoire Daricot est avec nous également.
Bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour, Bérénice. Bonjour à tous.
Ouais. Au programme aujourd'hui, Bérénice.
Eh bien, on va parler du crédit hypothécaire. Vous savez, Monopoly.
Hmm, oui, exactement, ça me rappelle.
Voilà, qu'est-ce que c'est?
Quand on commence à perdre. Mais
non,
sauf que vous allez nous
expliquer.
Bah, au Monopoly, si.
Oui,
mais là, vous allez
nous
expliquer que justement, c'est pas quand on perd.
Tout à fait. Et on sera avec donc Véronique Bougardier, la directrice du cabinet Bougardier, qui propose le crédit hypothécaire.
Bienvenue à vous. On va aussi répondre aux questions que nous posent nos auditeurs au 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio.
Et aujourd'hui, on parle de sous-location. Vous voulez sous-louer votre logement? Attention.
Oui. Quels sont vos droits? Vous nous le direz. On va aussi parler du chantier du siècle.
Oui, on sera avec Laurent Permas. On va vous parler de climatisation. On s'est dit qu'il commençait à faire chaud et donc c'était important de parler de la climatisation. Et après, on fera le tour de France des biens coup de cœur. On ira à Marseille parce qu'il faut aller à Marseille. Et après, on sortira de France. On ira aux États-Unis à Dalton dans l'Illinois.
Parfait. Le rendez-vous est pris. Mais avant ça, on commence par les infos de la semaine à retenir.
Et oui. Effondrement historique des ventes dans le neuf, tension maximale pour se loger quand on est étudiant, je ne vous l'apprends pas, et décote record pour les passoires thermiques.
Oui, ça c'est important, on commence donc par cet effondrement historique.
Et oui, alors notamment dans l'investissement locatif, vous le savez, la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, tire la sonnette d'alarme depuis un petit moment, et bien ça a continué cette semaine, l'offre locative s'effondre. En cause, la fin brutale, vous le savez, du dispositif Pinel qui s'est terminé en décembre. Résultat, les ventes à des investisseurs particuliers, vous savez, c'est ceux qui veulent acheter un logement pour le mettre en location, eh bien, s'écroulent de 41% au premier trimestre 2025. Pourquoi c'est grave? Parce que, vous l'avez compris, il y aura moins de logements en fait disponibles pour les Français. Alors, les ventes aux propriétaires occupants, ceux qui achètent pour occuper, reprennent un tout petit peu plus 10%, mais bon, c'est loin de compenser cette crise du logement. Pour les professionnels, la solution passe par un statut clair du bailleur privé que en fait les professionnels réclament au gouvernement de toute urgence. Autre frein majeur, l'effondrement des permis de construire à un an des municipales. Vous savez, c'est les maires en fait qui accordent les permis de construire. Donc là, comme les maires veulent se faire élire,
ça fait du désordre, ça change le paysage. En général, les maires deviennent beaucoup plus frileux en fin de mandat.
C'est ça, toujours. Donc la FPI appelle les élus, voilà, à débloquer la situation. Et alors, autre phénomène inédit, le retrait des opérations immobilières. 26% des logements commercialisés sont retirés de la banque, donc avant d'être construits. Je vous explique pourquoi, parce que j'ai demandé à Pascal Boulanger personnellement. En fait, pour lancer un chantier, il faut environ 50% de logements réservés là, pour lancer les travaux. Et c'est pour que la banque suive, et la banque, après, une fois qu'elle a dit OK, les travaux débutent. Mais aujourd'hui, les acheteurs ne sont pas au rendez-vous. Résultat, les programmes sont suspendus. Et même les clients rares qui s'étaient engagés finissent par se désister.
Ouais, bon, décidément, c'est un tableau bien sombre. On passe au logement étudiant, ma chère Bérénice. Nouveau baromètre. C'est de plus en plus compliqué pour se loger aussi pour les étudiants, décidément.
Eh oui, c'est compliqué chaque année, ça devient toujours plus compliqué et ça c'est assez dramatique. Donc le logement étudiant est vraiment un marché sous tension. L'étudiant, le magazine, vous savez, a publié son baromètre du logement cette semaine. Le constat est sans appel. Le logement absorbe la moitié du budget des étudiants. Les loyers ne cessent de grimper, puis 70 euros en 10 ans. Donc en moyenne, c'est passé de 383 euros en 2016 à 453 euros aujourd'hui. Et ce qui est frappant, c'est l'insuffisance structurelle de l'offre. Le CROUS ne dispose que de 6 lits pour 100 étudiants. Je ne sais pas si vous imaginez. Et seulement 25% des boursiers peuvent être logés par le CROUS. Moi, je trouve que c'est quand même assez dramatique. Donc, il manquerait au moins 250 000 logements étudiants pour répondre à la demande. Les associations dénoncent vraiment un abandon de la part du gouvernement, accentué depuis par la baisse des APL. Et alors, le magazine L'Étudiant a analysé 47 villes comptant plus de 8000 étudiants et les a classées de A à D selon un Logiscore qui est disponible sur Internet. Allez voir, c'est intéressant. Donc, plus il est élevé ce Logiscore, moins il est difficile de se loger. Et donc, sans aucune surprise, Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, ainsi que les villes touristiques Nice, Vannes ou Annecy sont vraiment préoccupantes.
Oui, il y a une vraie crise du logement étudiant dans ces villes. On termine par un autre score, en quelque sorte. On finit avec l'impact du fameux diagnostic de performance énergétique sur Les prix de l'immobilier, ça
tout
fait monter
fait.
Ou baisser ?
Eh bien, ça fait baisser et par endroit, vraiment beaucoup, 25% selon les territoires. En gros, toute la France, dans toute la France, en moyenne nationale, les logements classés F ou G accusent en moyenne une décote de 15%, donc environ 452 euros par mètre carré par rapport aux biens classés D. Et dans les zones détendues, donc là où il y a une faible demande de logement, hein, les zones rurales surtout, eh bien cette décote, elle peut aller jusqu'à 25%. Il faut savoir que depuis la mise en place de la loi Climat et Résilience, donc c'est la loi qui a mis en place le DPE, le diagnostic de performance énergétique, en 2021, eh bien la proportion de passoires thermiques à la location diminue. En revanche, elle augmente dans les biens à vendre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les propriétaires préfèrent vendre leurs biens
plutôt que des travaux.
Exactement.
Et voilà.
Et parce que les travaux, ça coûte cher.
Et les travaux, ça coûte cher aussi. On va continuer à suivre la situation du marché de l'immobilier. Mais allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On parle de
crédit hypothécaire.
Avec
mon
notre
cher.
Invité. À tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio. Parlons Immo.
Votre rendez-vous 100% immobilier comme tous les samedis et non pas les dimanches, comme je l'ai dit par erreur manifestement.
Alors,
au début de l'émission, j'étais pressé, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, c'est quand même le jour du Seigneur chez nous. Hein.
Bah oui.
Allez, on parle de crédit hypothécaire avec votre invitée, ma chère Bérénice de Villefleurio.
Et c'est Véronique Bougardier, bonjour.
Bonjour.
Êtes directrice du cabinet Bougardier. Donc vous êtes un courtier en crédit hypothécaire depuis 1970. Alors on va peut-être commencer avec cette question, qu'est-ce que le crédit hypothécaire ?
Alors,
qui le peut faire peur, hein. ça peut être un peu quand on entend hypothèque.
Voilà, le crédit hypothécaire, eh ben, c'est un financement tout à fait très simple. C'est un refinancement d'un bien immobilier que vous possédez déjà. Pour faire un crédit hypothécaire, il faut déjà être propriétaire puisque vous apportez en garantie le bien que vous possédez. Mais en France, on ne prête pas uniquement sur une garantie, on prête sur une capacité à rembourser. Donc c'est un financement tout à fait classique. Il n'y a pas de.
Il ne faut surtout pas
avoir peur, effectivement. C'est quelque chose de, qui vous permet d'obtenir de la trésorerie d'une façon plus importante, puisque vous apportez en complément une garantie.
Et c'est assez utile. Parce que j'en parlais aujourd'hui, au début de l'émission, on a tous découvert ce terme, je pense même vous, quand vous étiez petite, en jouant au Monopoly. Quand on commence à hypothéquer ses propriétés au Monopoly, c'est quand on commence à perdre. D'où le cliché. Vous nous dites, au contraire, non, on ne fait pas ça quand on est acculé ?
Pas du tout. Alors, nos clients ne sont pas du tout acculés. On a très peu de gens qui sont... D'abord, on ne pourrait pas, puisqu'il faut avoir une vraie capacité de remboursement. On n'aurait pas le droit de faire un crédit à des personnes qui sont en grande difficulté.
D'accord.
Donc, les personnes qui viennent nous voir et nous sollicitent pour un prêt hypothécaire, c'est parce qu'ils ont un besoin auquel leur banque traditionnelle ne répond pas, c'est d'avoir une trésorerie assez importante pour donner de l'argent à leurs enfants, pour payer des droits de succession, pour faire des apports en compte courant dans leur société, ou pour plus simplement acheter un autre bien, mais par exemple, plutôt que de déplacer un compte épargne, ils vont peut-être donner une garantie immobilière complémentaire pour pouvoir financer à 100%, par exemple, la résidence secondaire. Ils ont une résidence principale qui est payée, ils veulent acheter une résidence secondaire, eh bien, nous allons pouvoir, en hypothéquant le bien qu'ils possèdent déjà, plus le bien qu'ils veulent acheter, on va pouvoir leur financer à 100% l'acquisition, même un peu plus, les droits d'enregistrement, un petit peu de travaux, les frais d'agence. Donc on peut aller jusqu'à une proportion de 50% de la masse de biens qu'ils apporteront en garantie.
De
la valeur du patrimoine qu'ils apportent en garantie.
Et alors comment ça se passe concrètement ? Si un client lambda veut venir vous voir, comment ça se passe et comment on rembourse un crédit hypothécaire ?
Alors comme je le disais tout à l'heure, un crédit hypothécaire c'est un crédit complètement classique, hein, c'est un financement, comme disait un grand patron de banque, un financement, ça doit être simple. Donc c'est un prêt tout à fait simple. Vous avez des possibilités de le rembourser naturellement tous les ans, par des mensualités, intérêts et capital. C'est ce qu'on appelle un prêt amortissable jusqu'à 25 ans, 30 ans. Chez nous, c'est comme un prêt classique, immobilier classique, ou si vous êtes multipropriétaire et que vous envisagez de vendre dans les 10 ans ou dans les 5 ans un de vos biens, d'arbitrer, mais que vous ne savez pas encore lequel ou que vous n'avez pas encore décidé parce que vous voulez profiter, vous pourrez faire un prêt hypothécaire avec nous in fine, c'est-à-dire que vous opérez pendant la durée du prêt que les intérêts.
D'accord.
Et au moment où vous vendrez un de vos biens, vous rembourserez le capital. Ce qu'il faut bien noter pour le prêt in fine que nous faisons, avec nos partenaires bancaires. C'est un vrai prêt in fine qui n'est pas garanti et adossé à un placement. Nous, c'est simplement des gens qui ont plusieurs biens et qui nous disent, qui déclarent qu'ils en vendront un pour rembourser le capital à terme.
D'accord.
Donc on ne mobilise pas du tout de placement.
Et là, vous parliez des taux d'intérêt. Justement, c'est quoi les taux d'intérêt d'un crédit hypothécaire? On sait que les taux des crédits, on va dire, normaux, des crédits immobiliers voilà, normaux, c'est aux alentours de 3% en ce moment. Pour un crédit hypothécaire, c'est combien?
Alors, comme pour tous les crédits, vous avez des taux qui sont en fonction de l'objet du prêt. Les taux légaux en France, hein, les taux d'usure, sont déterminés en fonction de l'objet du prêt. Un crédit immobilier, donc, pour nous, aujourd'hui, sur un crédit hypothécaire avec une nature immobilière, c'est-à-dire que vous hypothéquez un bien pour en acheter un autre ou pour faire des travaux, vous êtes dans le cadre immobilier, on est sur les 4,5 à peu près. Donc d'accord. Un tout petit peu plus cher, mais on ne demande pas d'ouverture de compte, de domiciliation de revenus, de questionnaire de santé. Donc on fait un produit, on ne vous demande pas de quitter votre banque. Donc il n'y a pas d'autre pour
c'est
nos partenaires.
Simple.
Oui, mais pour nos partenaires qui vont effectuer le financement, ils ne gagnent que sur l'intérêt d'emprunt.
D'accord.
Donc on est un petit peu plus cher, par exemple pour de la trésorerie, on sera autour de 5%. Voilà, mais toujours sans ouverture de compte, sans questionnaire de santé, sans domicile de revenus. Donc c'est vraiment un one shot.
Donc c'est peut-être plus facile pour une certaine catégorie de personnes, c'est plus facile à obtenir et plus simple à mettre en place. En revanche, c'est un tout petit peu plus cher.
Voilà. Mais surtout, c'est plus simple, c'est plus facile à obtenir parce que les banques, leurs banques traditionnelles, ne l'ont pas en catalogue. Aujourd'hui, le prêt hypothécaire, il est pas très connu parce que les banques de réseau ne le proposent pas. Si vous allez demander à votre banque un prêt immobilier, elles savent très bien le faire. Ouais. Vous demandez à votre banque un prêt de trésorerie, un prêt conso, il sera limité à 75 000. À peu près. En revanche, si vous avez besoin d'une trésorerie plus importante, vous direz, j'apporte en garantie un bien immobilier, ça, elles ne le feront pas. Donc le prêt hypothécaire, c'est avant tout obtenir une trésorerie plus importante qu'un prêt conso, et il sera garanti. La banque, bien sûr, demandera une garantie complémentaire.
On est d'accord, le propriétaire ne doit pas avoir de crédit en cours pour faire sur son bien qu'il met en hypothèque pour faire appel à vous, par
tout
exemple.
Tout à fait. Parce que les banques hypothécaires, leur rôle, c'est d'avoir une garantie sur le bien et une garantie de premier rang. Donc s'il y a un prêt immobilier qui est toujours inscrit sur le bien qu'on prendra en garantie, soit on le reprendra dans la masse de l'emprunt. Donc on le reprendra on le refinancera avec le reste du besoin et pour avoir une hypothèque de premier rang. Ça, c'est quand même la marque c'est la sécurité pour la banque qui fait un prêt hypothécaire.
Est-ce qu'on peut donner un exemple? Donc, par exemple, un propriétaire possède un appartement qui a été financé, qui est entièrement à lui, de 2 millions d'euros. Il veut venir vous voir pour acheter un petit appartement pour son fils, par exemple. Il vient vous voir, donc, à 50% du patrimoine, c'est 1 million, donc vous lui fournissez 1 million d'euros.
S'il vient nous, effectivement, c'est tout à fait un bon exemple pour aider son fils à acheter un autre bien. Ça, c'est beaucoup d'exemples actuellement avec la hausse des taux. Donc, les enfants pouvaient pas toujours acheter le bien qu'ils souhaitaient. Il fallait qu'ils réduisent un peu les surfaces. Donc, les parents sont souvent venus au secours de leurs enfants pour qu'ils puissent acheter le bien qu'ils souhaitaient. Donc, une personne qui vient avec nous voir, qui a un appartement sur Paris, 2 millions d'euros, on pourra lui prêter 1 million 2 parce qu'on va pouvoir lui apporter une somme de 60% de la valeur du bien.
D'accord. 60%, donc là, on est monté à, c'est plutôt 60%.
Et c'est après, 60% sur Paris. Après, il y a d'autres régions où ça
et
sera 50%.
Et la durée du remboursement, vous ne l'avez pas évoquée.
Donc la durée du remboursement, on va étudier avec lui. Hein. On fait du sur-mesure. Les clients sont... Chaque cas est différent. Donc chaque cas en fonction des objectifs qu'ils ont dans leur vie et du patrimoine qu'ils possèdent et ce qu'ils ont envie de faire. On va soit leur proposer un prêt long terme amortissable ou un prêt, comme je disais tout à l'heure, in fine. C'est en fonction, on va être en adéquation avec leur situation.
Bon, après là j'ai pris 2 millions parce que c'était facile à visualiser, oui. Mais vous avez
mais ils n'ont pas besoin obligatoirement de la 50% ni de 60%. On a beaucoup de clients qui viennent avec un bien d'un million et ils veulent donner 200 000 euros à leurs enfants puisqu'ils ont la capacité par parent et par enfant de faire une donation de 100 000 euros chacun.
Et dernière question, juste si ça se passe mal, si la personne n'arrive pas à rembourser son prêt, la maison est saisie.
Alors pas immédiatement. Alors vous savez, dans l'idée des gens, j'ai un prêt hypothécaire, je ne peux plus vendre ma maison, je ne peux plus rien faire. Les gens, il faut qu'ils anticipent. Il peut y avoir des problèmes. On anticipe déjà. C'est pour ça qu'on regarde bien la capacité à rembourser pour éviter tout problème dans le futur. Mais si quelqu'un ne peut plus rembourser, il y aura des alertes, on va pouvoir discuter et ils vont venir nous voir. Ils vont dire, bon, on va vendre, mais avant que le bien soit vendu, on a quand même... Il y a une procédure, et c'est ça qui un peu rebute les banques de réseau, qui est très longue, parce qu'il y a la justice qui va faire le travail, et donc c'est très long. Avant d'avoir un bien qui est en recouvrement et une mise en vente, il va pouvoir se passer plusieurs années, voire 5-6 ans. Donc,
on a le temps de voir venir et de trouver des solutions. Quoi. C'est
exactement, le temps de venir et de trouver des solutions. Il faut vraiment faire l'autruche pour être vendu aux enchères.
Et sachant
aujourd'hui,
que ce n'est pas intéressant pour les entreprises comme la vôtre d'aller jusqu'à la vente, en d'autres termes, vous avez tout le monde intérêt à trouver une solution.
C'est jamais intéressant, on ne cherche pas. Un banquier qui fait du crédit hypothécaire ne cherche pas, n'a pas dans l'idée qu'il va avoir des biens à mettre en vente. C'est tout sauf ça.
Oui. C'est une sécurité.
Merci beaucoup Véronique Bougardier. Donc je rappelle que vous êtes directrice du cabinet Bougardier.
Merci à vous.
Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On continue à parler logement. Il est 9h39. Dans un instant, le répondeur de Sud Radio 0826-300-300. On va parler de...
sous-location.
À tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio, parlons immo.
Votre rendez-vous 100% immobilier comme chaque samedi sur Sud Radio avec toute l'équipe de Radio Immo. Bérénice de Villefleurio, tout de suite on écoute le répondeur.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente
Sud Radio, parlons immo. Ça vous concerne.
Et oui, ça vous concerne tellement que vous nous laissez beaucoup de messages au 0826-300-300. Bérénice.
Et aujourd'hui, on vous transmet le message de Kevin. Kevin de Rouen nous a appelé. En fait, il va partir travailler 6 mois à l'étranger et il souhaite sous-louer son appartement, donc il est locataire, pendant son absence. Et il se demande quand même s'il y a des risques et quels sont-ils. Alors, pour lui répondre, on accueille notre expert en droit immobilier, avocat en droit immobilier, Romain Rossilandi. Bonjour maître.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, pour répondre à la question de Kevin, déjà, est-ce qu'on a le droit de sous-louer son logement quand on est locataire et quels sont les risques?
Alors, on n'a absolument pas le droit.
Est-ce qu'on a le droit? Puisqu'on n'a pas le droit, quels sont les risques, effectivement?
Non, si, je crois qu'on a le droit si on demande aux propriétaires.
On n'a pas le droit parce que la loi de 89, qui est la loi sur les baux d'habitation, prévoit un principe en son article 8 qui est l'interdiction de la sous-location. Alors évidemment, s'il obtient l'accord écrit et préalable de son bailleur, là, il n'y a pas de problème. Mais il faudra quand même aussi que le sous-loyer soit inférieur au montant du loyer payé par Kevin. Vous voyez, donc c'est quand même très encadré par la loi. Moi, je vous déduis de sa question, c'est qu'il n'avait pas l'intention d'informer son bailleur. Parce qu'on peut comprendre un bailleur qui ne va pas forcément accepter, il ne connaît pas le locataire, le sous-locataire, il ne sait pas qui c'est, il n'a pas regardé son dossier, et puis c'est que pour une période de 6 mois. Donc en général, les gens sont tentés de se dispenser de l'accord du...
C'est un petit filou, Kevin.
C'est non, mais surtout les risques. Alors c'est très important, effectivement, les risques. C'est que premier risque, il risque la résiliation de son bail, parce que ça, c'est un motif de résiliation du bail, donc d'expulsion. Mais surtout, et c'est ça auquel les gens ne pensent pas, notamment quand ils sous-louent sur Airbnb, c'est que les sous-loyers sont considérés par la jurisprudence comme des fruits civils qui reviennent de droit au propriétaire. Ce qui veut dire que le propriétaire peut réclamer, en plus des loyers courants qu'il a touchés, tous les sous-loyers qui ont été perçus par Kevin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça doit aller très loin. Il y a eu des dossiers à Paris où des locataires avaient sous-loué parfois pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est les propriétaires qui ont récupéré.
Ce qui est normal.
Ce qui est logique, absolument. Mais pourtant, Romain Rossilandi, le terme sous-location est un terme très populaire parce qu'on a tous croisé des gens qui sous-louaient leur appartement pendant leurs vacances quand ils étaient étudiants. Donc malgré tout, c'est une pratique industrielle, illégale, mais industrielle.
Oui. Alors oui, c'est pour ça que je trouve que la question est intéressante, parce que moi je le vois tout le temps. Alors je voudrais quand même préciser que dans le code civil, le droit commun, la sous-location est autorisée. Et dans la loi de 89, qui est la grande loi applicable pour les résidences principales, elle est interdite. Y a un cas quand même, c'est intéressant, on en parle assez rarement, où maintenant la loi l'autorise. Mais alors c'est un cas très, c'est ce qu'on appelle les contrats intergénérationnels solidaires. C'est quand une personne de plus de 60 ans décide de cohabiter avec une personne de moins de 30 ans. Oui. Et là, à ce moment-là, on peut faire de la sous-location sans avoir l'accord écrit préalable du bailleur. Vous voyez, mais c'est assez rare.
D'accord. Et juste question, petite question rapidement. Si jamais donc, le propriétaire là, s'en rend compte, il voit son appartement qu'il loue déjà sur un site de location, qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors là, c'est vrai, bonne question. C'est ça qui est compliqué, parce que moi, j'ai dit, c'est comme ça. Il faut apporter la preuve, parce que la charge de la preuve repose sur le propriétaire. Oui. Donc il faut qu'il apporte la preuve de la sous-location. Et souvent, on n'est pas au courant du montant du sous-loyer. Mmh. Et on ne sait pas depuis quand ce sous-loyer est payé. Vous voyez, donc ouais. Il peut y avoir des discussions aussi sur l'origine. Attention, la prescription aussi est intéressante pour le bailleur parce qu'elle est de 5 ans. Donc il peut remonter sur 5 années. Alors que la prescription pour le recouvrement de loyer impayé, par exemple, n'est que de 3 ans.
Ouais. D'accord. Voyez, donc,
La jurisprudence est extrêmement sévère pour la locataire qui loue sans l'autorisation du bailleur. Donc pour votre auditeur, il devrait appeler son bailleur, lui expliquer, écoutez, je pars 6 mois à l'étranger, j'ai trouvé quelqu'un de très bien, enfin le rassurer, lui donner des renseignements. Et peut-être qu'il obtiendra quand même l'accord à écrit son bailleur. Je pense que c'est la meilleure option.
Oui. Ouais, franchement, c'est entendable. Hein. Moi, je suis à la place du propriétaire, j'accepte. En tout cas, Kevin, j'accepte. Donc voilà, attention Kevin, parce que votre propriétaire a 5 ans en tout cas pour vous poursuivre si jamais vous êtes repéré. Merci beaucoup, Maître Romain Rossilandier, avocat en droit immobilier.
Et vous tous qui nous écoutez, vous laissez vos messages pareil sur le répondeur au 0826 300 300. Si vous voulez faire quelque chose d'illégal, on vous expliquera pourquoi il ne faut pas le faire.
Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Allez, tout de suite, on passe au chantier du siècle.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente...
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
La rénovation énergétique avec vous Grégoire Daricot et Laurent Permas.
Merci Jean-Marie, bonjour Laurent Permas.
Bonjour Grégoire.
Alors vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Laurent, ça y est, il fait à peu près beau partout en France. Nous en sommes ravis et je crois que c'est le bon moment pour parler de climatisation.
Eh bien, c'est le très bon moment puisque en fait, je suis dans le sud notamment pour suivre l'installation d'une pompe à chaleur avec un professionnel pour tout comprendre, notamment une pompe à chaleur RR. Alors, ça va être un cauchemar en fait dans les prochaines années. C'est-à-dire que c'est un domaine de santé publique hein, puisque en fait, c'est un sujet important. D'autant que la fréquence, c'est le sujet des canicules. Vont donner un inconfort thermique l'été notamment, et cet inconfort, notamment sur les jours, vont doubler, et la France va subir en fait 5 à 10 fois plus de jours de vagues de chaleur d'ici la fin du siècle. Elles pourront durer jusqu'à plusieurs mois. On imagine ce que ça peut donner en ville et aussi dans les maisons et appartements.
Le tout avec une population qui en plus va continuer à vieillir.
Et du coup, la bonne question, Laurent, c'est est-ce qu'il faut investir dans un climatisateur ?
Bah, je vous dis oui. Hein. Alors, clairement, avant d'investir dans un climatisateur, il faut peut-être regarder un peu comment refroidir en fait votre logement, hein. Anticiper notamment l'adaptation du bâtiment, regarder comment on peut avoir peut-être moins de consommation électrique, notamment des systèmes. Et bien évidemment, c'est surtout faire appel en fait à un audit énergétique. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir à la fois regarder ce qui se passe au niveau de l'isolation externe, mais aussi définir en fait quel type de pompe à chaleur vous allez devoir installer.
Quelle solution on peut privilégier, Laurent ?
Alors, l'installation, en fait, est le bon usage des protections solaires extérieures, bien évidemment. Hein, c'est-à-dire que vous allez tout de suite vérifier qu'il y a moins d'apport de lumière, notamment la journée, faire circuler l'air frais dès qu'on peut, hein, avec des protections solaires aussi extérieures, les volets, les brise-soleil, les stores. L'ouverture des fenêtres la nuit, c'est peut-être un peu banal, mais ça permet de redescendre la température. Et puis les gestes quotidiens, hein. Comme je le précisais, attention à la consommation, la surconsommation électrique au niveau des fours, des appareils en fait qui sont pas forcément nécessaires. Et puis, bien évidemment, avant de passer à la climatisation, on peut utiliser des brasseurs d'air ou des ventilateurs qui, conjugués à un apport d'air frais, on peut le mettre près d'une fenêtre, notamment la nuit, peut entraîner un effet de cooling effect. On parle légèrement anglais, qui permet de diminuer entre 1 et 3 degrés. Hein, donc c'est pas non plus beaucoup, mais ça permet en fait de rafraîchir. Et puis à moyen terme, ce que j'évoquais au tout début, hein, bah c'est notamment de regarder comment on peut peut-être mieux isoler l'extérieur, par l'extérieur, quand cela est possible. Hein, il faut demander des autorisations pour justement à la fois stocker la chaleur l'hiver et puis stocker la fraîcheur l'été. Hein, ça fonctionne dans les deux sens. Repenser la conception des bâtiments, mais ça c'est plutôt pour le bâti, hein, pour les nouveaux bâtiments, pour tout simplement s'adapter au climat qui va très fortement changer, notamment sur les pics de chaleur demain.
Donc Laurent, moi je peux quand même installer un système de rafraîchissement chez moi sans entamer ma responsabilité écologique.
Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez, notamment, c'est ce qu'on appelle la pompe à chaleur. Alors, vous avez deux types de pompe à chaleur. Vous avez la pompe à chaleur, en fait, géothermale, hein, qui est réversible. Elle peut fonctionner à la fois pour un chauffage et en froid, avec une bonne efficacité énergétique. Hein. C'est un investissement qui peut être important, notamment, il faut compter entre 60 et 100 euros le mètre carré. Ouais. Donc, vous avez un premier type de pompe à chaleur, c'est la pompe à chaleur RR, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle est aérothermique. Et celle-ci, attention, elle n'est pas sujette aux aides MaPrimeRénov ou à la TVA réduite à 5,5 ainsi que à l'éco-PTZ. Vous allez
taux zéro.
Taux zéro, hein, attention. Donc vous ne pouvez pas y bénéficier. Et donc ça va être tout simplement un réchauffage de climatisation tel qu'on peut l'avoir. Et vous avez un deuxième type de pompe à chaleur qui est une pompe à chaleur RO qui elle est liée à la thermodynamie et qui va tout simplement capter l'air à l'extérieur pour chauffer les radiateurs ou les planchers. Elle nécessite une plus faible énergie pour fonctionner. Bien évidemment, elle bénéficie des aides MaPrimeRénov, la prime énergie bonifiée, le prêt à taux zéro, le éco-prêt à taux zéro, la TVA réduite à 5,5 et les aides locales. Il faut quand même bien vous faire conseiller avant parce que il faut de la place pour ces pompes à chaleur. Certaines sont plus ou moins efficaces avec en tout cas nuisibles au niveau sonore. Donc ça aussi. Et puis, si vous voulez avoir une efficacité très forte, il faut plutôt vous tourner peut-être vers la pompe à chaleur RR qui, elle, véritablement climatise, refroidit en fait votre logement.
Bon, merci, écoutez, c'est Laurent Permas. Merci pour tous ces conseils, Laurent Permas.
Merci à vous.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
Allez, puisque dans un quart d'heure, on va prendre la route avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault, dont on parle auto, et ben on fait le tour de France avec vous, Grégoire Darico. Vous nous emmenez où?
Allez, pour les biens coup de cœur. Premier bien, Jean-Marie, je vous emmène dans la cité phocéenne. Bienvenue à Marseille, où je vous ai trouvé un appartement dans le 8e arrondissement. Un appartement de 70 mètres carrés et 3 pièces, très bien situé au sein d'une résidence récente. Cet appartement est proche des transports et des commodités. Il a récemment été refait, donc ne nécessite aucun travaux à refaire. Il se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour cuisine bien équipé, de deux grandes chambres avec pas mal de placards pour ranger vos affaires. En plus de cela, vous avez une grande salle de bain et une grande terrasse attenante au salon.
Parfait pour le dressing de Bérénice.
À partir surtout la terrasse, à partir du mois de septembre, vous pourrez ainsi profiter des soirées de Ligue des Champions puisque le mythique Olympique de Marseille est qualifié et que le Vélodrome se trouve à quelques rues seulement. Bref, vous aurez aussi un box dans lequel vous pouvez garer deux véhicules, un appartement qui nous présente un diagnostic de performance énergétique de C. Belle opportunité mise en vente par Century 21 au tarif de 259 000 euros.
Et vous savez ce que la définition d'un mythe, c'est une histoire légendaire qui ne s'est jamais produit. Vous le saurez. Bon, vous êtes supporter de l'OM, vous avez bien le droit, effectivement. En un mot, votre dernier bien ?
Oui, c'était aux États-Unis à Dalton, parce qu'un Américain n'arrivait pas à vendre sa maison à 200 000 dollars. Il se trouve qu'en fait, c'était la maison d'enfance du nouveau pape, le cardinal Robert Prévost. Et du coup, il s'en est rendu compte et il a retiré la maison de la vente. Il s'est dit qu'il pouvait faire une plus-value plus importante.
Les voix du Seigneur sont impénétrables, effectivement. Merci beaucoup, Grégoire Darico. Merci à vous, Bérénice de Villefleurio. Cette émission sera rediffusée à midi sur Radio Imo. On vous retrouve samedi prochain, tous les deux,
avec
en
plaisir.
Compagnie de Sylvain Lévy-Valency, qu'on embrasse.
Sud Radio, parlons Imo.
Avec Basile, votre application de recherche immobilière.